Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Escapade en Garrigue sur Radio Escapade. Aujourd'hui, pour la reprise de l'émission, nous avons décidé de remettre au clair pour les auditeurs ce qu'était le collectif des Garrigues, l'émission, le territoire, le fonctionnement de cette association, et essentiellement de détailler, de faire des focus sur les projets principaux en cours de réalisation au sein du collectif. Pour ça, aujourd'hui, il y a Caroline.
Bonjour.
Bonjour. Et Amélie.
Bonjour.
Et moi-même, Alice. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti pour le collectif des Garrigues. Amélie, peux-tu nous dire l'émission principale du collectif ?
Je vais reprendre le texte fondateur du collectif des Garrigues et vous donner les quelques phrases qui définissent la mission du collectif, à savoir que le collectif des Garrigues a pour finalité de rassembler et valoriser les expériences et les connaissances sur les Garrigues, de contribuer au rapprochement entre les acteurs du territoire et de susciter la réflexion sur son futur, en préservant et en développant ses spécificités dans le respect des milieux et de sa vie citoyenne. Donc vraiment, notre objectif, c'est de créer un centre de ressources vivant sur la Garrigue, qui a pour nom l'Encyclopédie vivante des Garrigues, et de rassembler les acteurs du territoire qui créent des connaissances qui participent à la création de connaissances sur le territoire des Garrigues. Et voilà, donc pour ça, on a plusieurs projets qu'on va détailler aujourd'hui qui nous permettent de compiler toutes ces connaissances et de créer ce qu'on appelle du bien commun sur les Garrigues.
Et ces missions se réalisent sur un territoire assez vaste, qui est un territoire qui s'étend depuis la vallée de l'Hérault jusqu'à la vallée de la Cèze, en passant par les gorges du Gardon. Et en limite nord, nous avons à l'est et les Cévennes, et puis le territoire se situe au-dessus des Camargues, avec pour principales villes Nîmes et Montpellier. On a donc quasiment 340 000 hectares de garrigues. Voilà.
Et donc, les acteurs du collectif sont regroupés dans notre fonctionnement que l'on va détailler et se réunissent via des rencontres, différents types de rencontres. Il y a les rencontres des Garrigues, les rendez-vous des Garrigues, et on en a une dizaine par an. On a des soirées du mardi autour de sujets spécifiques qui sont plus sous forme d'ateliers, formations. Et on a des chantiers participatifs depuis très peu de temps, où c'est plutôt des travaux manuels avec un petit peu de méthodo en début et de la méthodo écrite post-chantier. Donc ça, c'est les manières de se rencontrer. Après, tout au long de l'année, des groupes de travail se réunissent pour travailler, réfléchir sur des sujets, des thématiques définies lors de forums et proposées par les membres du collectif. Donc aujourd'hui, en 2017, nous avons 6 grands projets que nous allons détailler juste après notre pause musicale. Mais avant, on va parler d'une terminologie qu'on emploie très souvent au collectif. Si vous êtes déjà membre du réseau, vous devez déjà en avoir entendu parler. Sinon, c'est l'occasion, c'est le bien commun. Amélie, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le bien commun ?
Oui, comme je disais, parmi les missions du collectif des Garrigues, dont l'objectif, c'est de valoriser les connaissances sur ce territoire et de les partager. Donc j'ai dit que notre objectif, c'était de créer du bien commun sur la Garrigue. Donc en fait, le bien commun, ça peut être autant des biens matériels qu'immatériels. Par exemple, l'air qu'on respire, c'est un bien commun dont tout le monde a droit. Et on pense que les savoirs aussi doivent être accessibles à tout le monde. Donc en diffusant nos données sur notre site internet Wikigarrigue, qui est en licence Creative Commons, de la même façon que des outils comme Wikipédia, on donne la possibilité à tous de prendre connaissance de ces connaissances et de pouvoir les utiliser à leur tour pour échanger, discuter, partager des savoirs sur la Garrigue.
D'accord. En fait, on part du principe que le territoire des Garrigues et les ressources qu'il y a en Garrigues appartiennent à tout le monde et qu'on est responsable de le préserver, en fait.
Notamment, oui.
D'accord. Eh bien, très bien. Nous allons rentrer dans le vif du sujet après cette petite pause musicale.
Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana. Todo eso representas.
Cuba, orillas donde la onda de La Habana.
Especulando en el micro, escucha como dice Maiko Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo, mira, viene de La Habana.
Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Panam. J'represente gars, mes refrains de la Havana. J'rappe, c'est mon dada. Maiko Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'represente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'represente ça.
Sabor a melao de caña. Ay, dime si te
gustó. Hey, yo, representando a los orillas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofin hasta la sepultura.
Yo represento la salsa, beat, hip hop, salsero.
Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. A La Habana yo me voy.
Yo represento el blanco, el noir, el chico, la chica. Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Yo represento la fiesta, el son de conga, du mec en la.
Saca los collares que llego chango. Chango.
Chango, Batalaye, Maya, Ochun, Mafere, Fun, Orulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento.
Cuba, orillas donde la onda de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas donde la onda de La Habana. Cuba, tu música. Cuba, orillas donde la onda de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas donde la onda de La Habana. Cuba, tu música.
Donc, nous sommes toujours à Radio Escapade. Sur l'émission Escapade en Garrigues. Donc, dans une première partie, nous avons détaillé le fonctionnement du collectif des Garrigues. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet en détaillant les projets, les groupes de travail qui sont en cours en ce moment. Sachant que nous avons environ 900 membres dans le réseau et qu'il y a une 150aine de membres actifs et qui se répartissent donc dans ces groupes de travail. Donc, l'un d'eux est projet Coop Carto dont va nous parler Amélie. Bonjour Amélie.
Rebonjour Alice.
Rebonjour. Peux-tu nous parler du projet Coop Carto, nous présenter l'historique du projet s'il te plaît?
Alors, Il faut savoir que le collectif des Garrigues, son projet de centre de ressources sur la Garrigue, a débuté aux écologistes de Lozière avec un travail d'écriture d'un ouvrage de référence que vous, j'espère vous connaissez tous, l'Atlas des Garrigues. Et qui dit Atlas dit carte, donc il s'est posé la question de rassembler des données pour pouvoir illustrer cet Atlas des Garrigues avec des cartes. Et on s'est vite rendu compte que les données disponibles sur le territoire étaient assez hétérogènes. On n'avait pas des informations complètes sur les différentes thématiques. Et typiquement, la question s'est posée pour l'écriture d'un article qui s'appelle « Pierre sèche, témoin et usage », qui avait été écrit par Bruno Fada, qui voulait faire donc qui parlait du patrimoine en pierre sèche, et on avait souhaité à ce moment-là faire une cartographie de la localisation de ce patrimoine en pierre sèche. Et on s'est rendu compte que parmi les membres du collectif des Garrigues, de nombreuses associations, collectivités, même des particuliers, avaient commencé à faire des inventaires de ce patrimoine. Et du coup, on a pu quelque part faire un inventaire de ces inventaires, cartographier l'inventaire de ces inventaires. Mais vu que chacun avait fait un petit bout d'inventaire de son côté, on n'avait pas forcément des données GPS de partout. Parfois, c'était simplement des petites cartes sur un bout de papier. Donc voilà, on avait quelque chose de très hétérogène et qui n'était pas forcément utilisable en tant que tel. Et en 2012, à l'occasion d'un rendez-vous des Garrigues, donc Alice vous a dit en introduction que les rendez-vous des Garrigues faisaient partie des grandes rencontres du collectif des Garrigues, il y a à ce moment-là une association bretonne qui s'appelle Tyriade qui est venue sur notre territoire nous présenter un outil qui s'appelle OpenStreetMap et a commencé à initier les membres du réseau du collectif des Garrigues à ce qu'on appelle des cartoparties. Donc cet outil OpenStreetMap, on s'est rendu compte qu'il allait nous permettre de répondre à la question qu'on avait eue au moment de l'écriture de l'Atlas des Garrigues, à savoir un outil d'inventaire du patrimoine qui puisse être universel et utilisable par tous. Et voilà, il faut dire que cet outil nous a rapidement séduit et qu'on a eu envie de se l'approprier, de pouvoir l'utiliser un peu plus.
Est-ce que tu peux nous détailler ce qu'est cet outil OpenStreetMap ?
Oui, OpenStreetMap, donc c'est une carte donc libre du monde, comme je vous ai dit. Hein, une donnée libre, c'est une donnée qui peut être accessible à tous. Cette carte peut être créée et complétée par des gens comme vous et moi. Donc, à partir de là, on a, en 2014, Nîmes Métropole, qui a aussi été très intéressé par cet outil OpenStreetMap, et qui nous a sollicité pour vraiment organiser des formations pour apprendre aux habitants du territoire, aux associations, aux collectivités, à utiliser cet outil OpenStreetMap. Le Pays de Sommières aussi, la communauté de communes du Pays de Sommières, a souhaité poursuivre ce travail de formation des acteurs du territoire. Et on a construit un espèce de programme de formation en trois temps où on apprenait aux membres du réseau à aller sur le terrain pour faire des relevés GPS, à saisir les données dans cette base de données OpenStreetMap et à les valoriser aussi via d'autres outils. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une méthodologie qu'on pouvait formaliser au cours d'une formation. Et on a souhaité poursuivre ce travail méthodologique donc avec d'autres associations qui expérimentent ces méthodes, à savoir l'association donc Tyriade, on est retourné la voir en Bretagne, et en Belgique aussi, une structure qui s'appelle le CRIE Moucron, qui expérimente des méthodes de cartographie participative. Et donc on les a sollicités pour travailler ensemble. Là, en 2017, on prévoit de débuter un projet donc on a appelé Coop Carto, dont l'objectif sera de construire un centre de ressources vivant sur la cartographie collaborative au service des territoires. Donc on va réexplorer des formations, on va remettre en pratique ces outils sur le territoire des Garrigues. Et l'objectif, c'est d'écrire des fiches méthodologiques qui alimenteront ce centre de ressources vivantes. Et d'un territoire à l'autre, on essaiera de tester ces fiches méthodologiques pour passer finalement de la méthodologie à la méthode et proposer un outil qui puisse être réutilisable par tous.
Merci. Donc le projet va débuter prochainement et les acteurs du territoire sont les bienvenus pour, pour participer à ces cartoparties.
Voilà, on va recréer un groupe de travail, on va repartir de ce qui a été fait avant, on va essayer de faire un petit audit pour voir ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, effectivement, on va reproposer un programme de formation et tout notre réseau et les acteurs du territoire des Garrigues seront conviés à participer à ces moments forts du projet Coop Carto.
Merci.
Alice, peut-être que à ton tour de nous présenter un projet que tu portes. Donc, tu t'occupes du projet Patrimoine et Art Vivant. Mais qu'est-ce que c'est ?
Alors, le groupe Patrimoine et Art Vivant rassemble tous les acteurs qui s'inspirent, qui travaillent ou qui interagissent avec les ressources de Garrigues, en fait. La Garrigue peut être utilisée comme une muse, mais aussi exploitée au niveau patrimonial, culturel, par rapport à la langue occitane, etc. En fait, tous ces acteurs se sont rendus compte que certes, et au collectif et en règle générale, le patrimoine, par exemple, géologique ou historique ou autre, peut être souvent valorisé, mais le patrimoine artistique est souvent délaissé. Et donc, ils ont décidé de se rassembler pour faire une identité commune, artistique, un symbole artistique commun et créer comme une égérie d'une Garrigue festive.
Ok. Et donc, au quotidien, si je puis dire, qu'est-ce que vous menez comme action ?
Alors, une fois que ces acteurs se sont regroupés et sont identifiés, reconnus et en vue qu'ils partageaient le même style de valeurs, les mêmes valeurs, on a décidé de créer un support, un outil qui pourrait être sous forme de performance ou autre, qui présenterait chaque association impliquée dans ce groupe de travail, mais également les actions et les événements de ces associations identifiées. L'idée sous-jacente, c'était de mutualiser l'information et la communication auprès des publics de chaque association, qui étaient souvent des publics communs, mais qui n'avaient pas toujours connaissance de l'existence des autres associations culturelles et artistiques des Garrigues. Pour la première étape, donc l'année dernière, enfin cette année en 2017, les membres du groupe ont décidé de travailler sur une performance artistique qui s'appelle Radio Garriga 3000. Donc, plusieurs associations artistes se sont regroupées et ont créé cette performance qui est entre le collectage et la performance en direct. En fait, ils créent un plateau radio sur des événements ou des festivals. Et en amont, ils ont fait des reportages sonores, des interviews, des recueils de sons sur une thématique. Souvent, c'est la fête en Garrigue. Et le jour de l'événement, ils font des interactions avec le public, ils diffusent justement ces reportages, ils font monter sur scène des personnes du public pour approfondir ce sujet qu'est la fête, etc. Donc c'est très dynamique. Ils ont déjà participé à 5 événements sur 2017 et c'est prévu qu'ils participent sur les trades hivernales janvier 2018. Donc c'est encore en cours.
Ces trades hivernales, elles auront lieu où ?
À Sommières, en janvier 2018. Et ensuite, pour le groupe Patrimoine et Art Vivant, on va se regrouper prochainement pour savoir s'il y a une suite autre que cette performance, pour aller plus loin et pour voir ce qu'on peut faire pour l'année 2018 et voir les besoins du moment. À chaque fois, on réajuste par rapport aux besoins et aux envies des participants. Voilà.
Ok, c'est clair.
Voilà. Donc maintenant, justement, pour illustrer ce groupe de travail, nous vous proposons d'écouter un des groupes impliqués qui s'appelle L'Aubaroute et qui propose une chanson qui s'appelle Los Enfants de la Luna.
Los Enfants de la Luna. Yo gunda que estelar Colorate.
Nous sommes de retour sur Radio Escapade pour les escapades en garrigue. Maintenant, on va aborder la question du projet Guide de Pierre Sèche. Amélie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce que ce projet ?
Oui, bah du coup, quand je vous parlais du projet Coop Carto, Je vous ai expliqué, bah déjà, il y a eu un article sur la pierre sèche dans l'Atlas des Garrigues. Ensuite, lorsqu'on a réalisé des cartes aux parties, donc sur le territoire de Nîmes Métropole et du pays de Sommières, notre principal sujet donc de ces cartes aux parties, c'était l'inventaire donc du patrimoine en pierre sèche, surtout principalement ce qu'on appelle des capitelles. Donc je ne sais pas si tout le monde sait, enfin j'espère que tout le monde sait ce qu'est une capitelle ou ce qu'est le patrimoine en pierre sèche, ou a priori dans le milieu il se dit des fois du patrimoine à pierre sèche. En fait, ce sont des constructions qui sont faites à partir de pierres extraites des champs. En fait, c'était pour dépierrer les champs que les agriculteurs d'abord mettaient les pierres sur le côté. Ils faisaient des tas de pierres. Puis après, bah, ils ont organisé ces pierres, ils ont fait des murets. Et puis, ils ont pu créer aussi des petites cabanes pour stocker leurs outils, pour stocker des produits de leur récolte. Et en fait, ce patrimoine parsème vraiment la totalité de nos garrigues. Et comme j'expliquais tout à l'heure, de nombreuses associations, des particuliers, des mairies ont commencé à faire des inventaires de ce patrimoine qu'on a commencé aussi à cartographier, à faire des relevés GPS. Et finalement, lors d'un forum du collectif des Garrigues en 2016, pas mal d'associations donc avaient travaillé à cet inventaire, mais aussi à la restauration de ce patrimoine, parce que ce patrimoine s'est pas mal détérioré, tombé en ruine. Donc toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien à la restauration, à la connaissance de ce patrimoine, ont souhaité se rassembler pour écrire un guide permettant de valoriser à la fois leur travail, mais aussi valoriser ce patrimoine en présentant des sentiers de randonnée qui permettent de voir ces sites qui sont exceptionnels en pierre sèche. Alors, je vais quand même citer le nom des associations, des partenaires impliqués dans la réalisation de ce projet, parce que sans eux, ils ne verraient pas le jour. Donc, au niveau du pilotage et de la coordination du projet, il y a le collectif des Garrigues et l'Institut de la pierre sèche. Ensuite, on a un espèce de pilotage technique, un espèce de comité rédactionnel qui se fait autour des associations du Menhir à Courbesac, l'association Nage Garrigues et Pierre Sèche, la Promicave à Calvisson, et ensuite l'association Garrigues et Pierre Sèche de Caveyrac. Donc suite au forum, il y a 49 sites qui ont été identifiés comme vraiment intéressants au niveau de la pierre sèche, mais tous ces sites n'avaient pas le même degré de valorisation. Il n'y avait pas forcément des associations qui portaient ces sites, il n'y avait pas forcément des sentiers de randonnée existants sur ces sites. Donc on a décidé d'en sélectionner 20 qui étaient portés par une association, une collectivité. Donc là, on est en phase, on a fini la collecte de données, d'informations sur ces 20 sites. Donc on a pu contacter à chaque fois un gestionnaire, un responsable du site, qui a pu nous expliquer l'histoire du site, son intérêt patrimonial, vraiment ce qui fait aussi le déclencheur, pourquoi à un moment donné on s'est intéressé à ce site-là, comment on a fait pour se rendre compte qu'il y avait un patrimoine en pierre sèche intéressant. Et donc on a l'écriture du guide qui est en cours et on espère le publier au mois de juin, voir sa sortie à ce moment-là. Et du coup, on va continuer. Moi, j'ai terminé pour vous présenter ce projet Guide Pierre Sèche, et je vais donner la parole à Alice qui va vous présenter le projet Valorisation économique des Garrigues.
Alors, le projet Valoéco existe depuis 4 ans. C'est un partenariat. En fait, à la base, le projet consiste à étudier les acteurs, les prestataires du territoire qui valorisent économiquement les ressources de Garrigues, que ce soit faune, flore, pierre, eau, etc. Et même en allant plus loin sur le tourisme, etc. Donc, c'est d'identifier éventuellement des marchés de niche ou des marchés pas de niche, mais des activités qui sont vertueuses par rapport à ce territoire qu'est la Garrigue. Donc depuis 4 ans, il y a un partenariat avec le master IEGB de la fac de Nîmes, de Montpellier. Donc la première année, il y a eu des études qui ont été faites auprès d'une dizaine de prestataires sur l'ensemble du territoire de Garrigue sans restriction particulière. Ensuite, la seconde année sur le pays cœur d'Hérault. Ensuite, sur la métropole de Montpellier, et donc les villes, les villages autour de Montpellier. Et cette année, c'est sur le territoire du Grand Pic-Saint-Loup, autour de la thématique de l'alimentation.
C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire finalement quels sont ces types d'activités économiques ? Qu'est-ce qui a été identifié par ce projet Valoeco ?
Alors, les premières années, il n'y avait pas de restrictions non plus sur les thématiques, vraiment. Et cette année, vraiment, on a décidé de faire un focus sur des prestataires qui, autour de l'alimentation. Donc, ça soit des producteurs, des vignerons, des transformateurs ou même des cantines scolaires.
D'accord.
L'idée, en fait, c'est aussi de trouver, enfin, de valoriser les résultats de ces enquêtes. Parce que donc là, on commence à avoir un certain nombre de données avec justement des prestataires qu'on a identifiés comme étant très innovants ou justement, en fait, on essaye aussi de réconcilier le public et les élus, les collectivités, etc. sur le fait d'exploiter la garrigue. Quand on dit exploiter, c'est forcément connoté négatif, comme si on allait puiser toutes les ressources et après laisser la garrigue démunie comme ça. Et nous, on essaye justement d'aller chercher les acteurs qui exploitent, mais de manière durable, donc avec la conscience du temps. En fait, sans la garrigue, l'activité ne serait pas possible. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'ils chouchoutent, en fait, la garrigue pour pouvoir perdurer leur activité, etc. Et l'idée, c'est de mettre aussi les données qu'on a identifiées, que ça soit mutualisé avec les autres acteurs pour qu'ils puissent s'en inspirer. Et aussi de montrer aux collectivités pour qu'ils puissent appuyer justement ces acteurs économiques dans leur démarche, aussi lever des freins peut-être économiques, fonciers, réglementaires, etc. pour justement qu'on multiplie ces acteurs vertueux.
Ces façons d'utiliser la ressource naturelle qu'offre la garrigue aux producteurs. Quoi.
Tout à fait. Et aussi le rapprocher des consommateurs. Parce que voilà, donc nous, c'est vraiment au stade recherche. Mais après, on aimerait aller plus loin et essayer qu'il y ait une visibilité et une clarté entre ces acteurs innovants et les consommateurs qui sont souvent en demande, mais qui n'ont pas toujours connaissance de ces acteurs parce que c'est des petits acteurs ou pas forcément des grosses chaînes ou des gros exploitants, etc.
D'accord.
Voilà pour l'année 2017 et donc à voir pour 2018 sur quelle thématique et quel territoire on ira. Selon aussi la demande des collectivités, s'il y a une demande particulière, on peut diriger notre axe d'études sur
un territoire et une thématique. Ok, merci Alice. Du coup, je crois que tu as prévu une autre coupure musicale avant la suite des présentations.
On s'arrête un petit moment pour écouter Sly Johnson et ensuite on finira avec les deux derniers projets du collectif en cours.
Baby, lose your mind, feel no shame.
Bon, alors nous reprenons l'émission Escapade en Garrigue. Et cette fois-ci, c'est Caroline qui va nous parler du projet Pasto Garrigue.
Oui, donc Alice nous a présenté le projet Valoéco qui consiste à faire l'inventaire des activités valorisant économiquement la garrigue. Et donc, suite à ce projet, lors d'un de nos forums, des membres du collectif ont décidé de s'emparer plus particulièrement du sujet de la valorisation économique que représente le pastoralisme en garrigue. Donc, depuis 2015, le projet vit sa vie propre avec son groupe de travail. Et il s'agissait, durant la première phase, depuis 2015 à 2017, de faire l'inventaire de ce qui existe aujourd'hui autour du pastoralisme en garrigue, d'acter le fait qu'il y avait une adhésion plus générale qu'au sein de l'association, mais sur tout le territoire, à ces pratiques pastorales historiques.
Je te coupe, tu peux expliquer ce que sont les pratiques pastorales, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas exactement ce que c'est.
C'est vrai. Donc sur les pratiques pastorales, on parle de pratiques d'élevage spécifiques, où on mène pour partie ou totalement son troupeau sur des ressources naturelles spontanées ou semi-spontanées, donc des prairies, la garrigue, des espaces qui peuvent être semés, etc., mais en extérieur.
D'accord, merci.
Et plus particulièrement, le pastoralisme en garrigue aborde la question de la complémentarité des milieux, où on attend des garrigues qui sont pâturées que des espaces cultivés à certaines périodes et un espace d'estive pour permettre aux troupeaux de s'alimenter durant l'été lorsque la ressource est plus difficile d'accès. Donc ces pratiques pastorales ont tout un tas d'intérêts qui ne sont plus à démontrer, des intérêts paysagers, des intérêts économiques, des intérêts naturalistes. Et le projet Pasto Garrigue défend donc pour tous ces intérêts, ces pratiques, sur l'ensemble du territoire. Donc la première phase a contribué à mettre en réseau les acteurs intéressés par ce sujet et à valider aussi le fait que ce sont des pratiques innovantes et toujours d'actualité. On a aujourd'hui encore des jeunes éleveurs et éleveuses qui s'installent. Et donc il s'agissait aussi de faire l'inventaire de leurs difficultés actuelles, qui ne correspondent peut-être plus à des difficultés passées. Donc les difficultés de mettre en œuvre ces pratiques, leurs besoins, les intérêts qu'ils voient aussi à leurs pratiques. Donc suite à cette première phase, un peu de diagnostic et de validation, la deuxième phase a démarré en 2017 et je l'anime depuis septembre. Et il s'agit aujourd'hui d'aller dans le concret et de mettre en œuvre des actions concrètes de soutien au pastoralisme et dépasser les discours d'adhésion. Donc ça peut passer à la fois dans l'accompagnement, par l'accompagnement d'institutions de style syndicat mixte ou collectivité sur leur projet de redéploiement pastoral. Ça peut être mettre en œuvre des événements ponctuels de communication pour faire du lobbying citoyen, qu'on parle le plus souvent possible et de manière très étendue du pastoralisme en garrigue. Nous venons de conclure la quinzaine du pastoralisme en garrigue, où nous avons organisé deux événements sur le sujet, l'un sur les gorges du Gardon, sur comment mettre en œuvre une coopération concrète, multi-acteurs, autour du pastoralisme en garrigue, et un autre événement sur la question du multi-usage en garrigue, où on a abordé la question des interactions entre chasse et pastoralisme. Deux autres actions seront menées en fil rouge, tant l'inventaire des initiatives pastorales sur tout le territoire, donc où il s'agit de mutualiser toutes ces expériences, bonnes ou mauvaises, pour en tirer tous les enseignements nécessaires. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter les informations que vous avez, si vous-même vous êtes acteur ou vous en avez entendu parler. Et puis une autre action en fil rouge, c'est de se rapprocher des éleveurs et éleveuses du territoire, éleveurs et éleveuses pastoraux, pour développer de nouvelles actions et approfondir certains sujets, peut-être de lobbying notamment, à émaner la question de travailler sur l'indemnité compensatrice de handicap naturel, qui est une façon de reconnaître la spécificité des pratiques sur un territoire de sécheresse et de de recevoir une indemnité économique par rapport à cette difficulté-là, ou bien de travailler sur la question des clôtures, de valoriser davantage les produits, etc. Donc, toutes les propositions sont bonnes à prendre.
Super, bah ça me paraît riche aussi comme projet. Merci Caroline.
Et donc, merci Caroline. Nous allons enchaîner avec un projet qui n'a rien à voir, un tout autre sujet qui est le projet Belvédère du Lez. Est-ce que Amélie, tu peux nous en parler, s'il te plaît?
Oui, c'est vrai que c'est un projet assez différent des autres projets du collectif des Garrigues qui sont plutôt transversaux sur la totalité du territoire des Garrigues. Et là, on se trouve sur un projet, peut-être sur un micro-territoire, mais un territoire qui va être assez riche parce qu'il fait aussi un trait d'union entre la ville et la Garrigue. Donc, c'est un projet qui est né en 2015. À ce moment-là, le collectif des Garrigues a été sollicité par une association qui s'appelle les Amis de la Chapelle de Baillarguet, située à Montferrier-sur-Lez, qui a souhaité développer un projet pour fédérer les associations qui œuvrent sur la mise en valeur globale des patrimoines et des paysages de la vallée du Lez. Donc, pour ce projet, on a rassemblé donc cette association qui s'appelle les Amis de la Chapelle de Baillarguet, l'association SOS Lez Environnement à Montferrier aussi, l'association Lez Vivant, l'atelier photo club de Clapiers, le club informatique de Saint-Clément-de-Rivière et l'association Prades de Lez Environnement. L'objectif, voilà, c'était de sensibiliser et faire connaître au grand public la richesse des patrimoines et des paysages de cette vallée. Rapidement, on a trouvé qu'une approche depuis les belvédères, donc depuis les points hauts de cette vallée, était intéressante et nous permettait d'aborder pas mal de thématiques. Donc on a identifié aussi 10 points hauts dans 7 communes, donc depuis Saint-Vincent-de-Barbérargues, Saint-Clément-de-Rivière, Prades-de-Lez, Montferrier, Clapiers, Montpellier et Castelnau-le-Lez, j'en ai oublié une. Donc c'est depuis la source de la vallée du Lez jusqu'au domaine de Lunaret à Montpellier. Ensuite, on a décidé de s'arrêter là puisque le profil de la vallée du Lez va complètement changer une fois qu'on arrive à Montpellier. Donc l'idée, c'est de regarder cette vallée depuis 10 points hauts et de la regarder à travers des regards différents. Comment est-ce que le géographe peut interpréter cette vallée, l'écologue, l'historien ou même l'artiste. Par exemple, il y a un peintre qui s'appelle Hamelin qui avait réalisé dans les années 1800-1900, je ne sais plus exactement, mais qui a réalisé de nombreuses peintures sur cette vallée et qui donne beaucoup d'informations sur ce qu'elle était à l'époque. Et on se rend compte que c'est une vallée qui a une richesse industrielle incroyable, qui a souvent été oubliée. Et donc, en 2016 et 2017, des rendez-vous ont été organisés sur le terrain, 10 rendez-vous sur ces 10 belvédères, pour justement faire un petit peu l'inventaire de ces différents regards, de ces différentes approches. En 2018, on souhaite poursuivre ce projet, donc formaliser, écrire tout ce qui a été échangé au cours de ces 10 rendez-vous des belvédères pour créer un outil grand public qui permette de prendre connaissance de ces regards sur la vallée. Donc ça sera sûrement un ouvrage papier, mais on souhaite aussi s'appuyer sur Internet qui offre un spectre beaucoup plus large de partage des connaissances, que ce soit écrites, photographiques, des vidéos, audio. Donc voilà, c'est encore un projet qui à la fois qui a déjà eu un vécu assez riche avec ses 10 rencontres sur le terrain, mais qui offre aussi de nombreuses perspectives et qu'on souhaite voir se développer et se poursuivre en 2018.
D'accord, merci. Et du coup, si j'ai bien compris, chaque rendez-vous des belvédères était animé de la même manière, sous le même format, avec des regards pluridisciplinaires de la même zone géographique, en fait.
C'est ça. À chaque rendez-vous des belvédères, on se trouvait sur un point haut qui nous offrait un regard sur la vallée. et tour à tour des spécialistes donc de leur discipline, comme je vous dis, soit l'histoire, la géographie ou un spécialiste des moulins, voilà, il y a eu des élus, même des anciens maires qui sont venus parler de la question de l'urbanisme de cette vallée. Donc à chaque fois, voilà, lors de ces rendez-vous, 5 ou 6 personnes présentaient leur regard d'un même paysage. Donc ça a apporté vraiment une richesse et une complémentarité sur cette approche paysagère.
D'accord. Donc concrètement, d'autres territoires qui ont à peu près les mêmes caractéristiques pourraient s'emparer même de cette méthode d'animation pour faire vivre une particularité sur leur propre territoire.
Pourquoi pas ? C'est vrai qu'après tout, toutes les méthodologies... C'est vrai que même ça, c'est au sens large, au collectif des Garrigues, on est... un peu dans l'outil, enfin, le collectif des Garrigues expérimente des outils et des méthodes de travail, que ce soit depuis la cartographie participative ou même quand Alice nous parlait du projet valorisation économique. On est souvent dans une phase de méthodologie, on teste des outils, on teste des approches de travail ensemble. Enfin, c'est vrai qu'on va peut-être le développer plus tard, mais on essaye d'utiliser des méthodes innovantes à la fois pour animer des réunions, pour travailler avec le numérique, puisque le territoire des Garrigues est assez large. Donc tout ce qu'on expérimente, toutes les méthodes qu'on met en œuvre, on essaye de les documenter au maximum sur le site internet Wikigarrigues, pour que chacun puisse se les réapproprier et les expérimenter avec leurs propres problématiques.
C'est tout à fait. On va conclure un petit peu cette émission, car les auditeurs doivent être experts maintenant des pratiques et des projets du collectif des Garrigues. Et on souhaite rappeler que rien n'est fermé. Tous les groupes de travail sont mouvants, c'est-à-dire que les participants peuvent rentrer ou sortir d'un groupe de travail quand ils le souhaitent, et qu'il n'y a pas d'adhésion obligatoire pour être actif sur ces sujets, sur ces thématiques. Donc il suffit de venir, de se montrer, de dire que vous êtes intéressé et d'entrer dans un groupe de travail pour rentrer dans le vif du sujet. Et donc pour cela, il faut soit prendre des renseignements sur notre site internet qui est wikigarrigues.info. Soit nous contacter par téléphone, par exemple, soit venir assister à un des 2 forums qui se passent en général en février et en septembre chaque année, pour vous impliquer directement. D'ailleurs, c'est l'occasion de parler de notre prochain forum qui se déroulera mercredi 7 février à Calvisson, dans le Gard, et où on fera un peu le bilan justement des actions menées en 2017 et les perspectives à venir, et aussi en termes d'organisation, d'animation et de fonctionnement, parce que on tient à rappeler que les membres du réseau, c'est eux qui sont maîtres du fonctionnement du collectif, et que c'est vraiment une gouvernance horizontale et
participative.
Donc venez, n'hésitez pas, toutes les idées sont bonnes à prendre et on vous accueillera les bras ouverts.
Pour rappel, notre numéro de téléphone et le 06 74 47 80 31. Et notre adresse mail centrale, c'est le collectif des Garrigues au pluriel, @gmail.com.
Et voilà. Et donc, nous vous laissons. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Et on se retrouve le mois prochain sur une émission toujours animée par le collectif des Garrigues.
Merci Alice.
Merci à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.